Pour bien réussir dans la vie, c'est comme une recette de cuisine. Il faut avoir les bons produits et oser fuir la routine. Une fois les ingrédients en main, il faut voir les bons dosages, être agile et parfois malin pour éviter de faire naufrage. Puis vient le temps de la cuisson. Choisir la bonne température, tout en suivant son intuition pour y laisser sa signature. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre ?
Alors, je vais me confier. Je me confie rarement, mais je me confie ce soir.
C'est d'écouter son cœur, c'est de se poser, de respirer. Il n'y a rien de mieux que la respiration.
C'est oser les choses. Oser, c'est gagner.
De ne pas pardonner, ça ne ramène personne et ça fait gagner les bourreaux.
Sois pas un mouton et fais ce que toi tu veux être et crois en toi et va de l'avant.
Et je veux dire l'amour, parce que sans l'amour, les hommes ne sont pas grand-chose.
Il faut être sûr de soi et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
Les passeurs de clés, 124e épisode. Je suis ici à Lyon. J'ai une vue incroyable sur le Rhône. Nous sommes au 8e étage d'un établissement, mais pour l'instant, je vais rien dire, puisque je vais laisser ça à mon invité, qui est juste en face de moi. On est très collés serrés, on est très proches, mais moi, j'aime bien cette proximité, puisque c'est l'objectif de ce podcast. Toi qui connais ce podcast maintenant, 124e épisode, je te rappelle que, bien entendu, si tu aimes ce podcast, tu peux bien le partager, puisque liker, commenter, c'est bien, mais partager, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie. Et tu vas voir que mon invité d'aujourd'hui, partager, il connaît le verbe, il le pratique à tous les temps, à toutes les personnes. On va parler beaucoup de partage avec mon invité qui s'appelle Fabrice Bonneau. Il est juste en face de moi, juste à côté de moi. Donc, comme je te le disais, si tu veux partager ce podcast, eh bien, n'hésite pas, c'est présent sur toutes les plateformes de podcast audio que tu connais. Donc, n'hésite pas, chaîne Les Passeurs de Clés, le podcast Les Passeurs de Clés. Alors, pour ce 124e épisode, je te dis, on a pris un petit peu de hauteur, d'altitude. On est en haut d'un hôtel de Lyon. On va en parler dans quelques secondes, quelques minutes, avec mon invité Fabrice Bonneau. Alors, Fabrice, on se connaît, mais c'est bizarre en fait, c'est l'impression de se... Enfin, moi j'ai l'impression de le connaître depuis tout le temps, pourtant on se connaît pas depuis si longtemps que ça, peut-être un an, deux ans, même pas. Et puis quand on s'est rencontrés, quand je lui ai parlé du podcast, quand je suis allé le voir dans son restaurant, Cuisine et Dépendance 2, qui se trouve ici dans un des quartiers de Lyon, près de la gare de Perrache, je lui ai parlé des passeurs de clés, il m'a dit, bah, écoute, bon, quoi, on cale une date, on le fait. Et puis, comment décrire Fabrice ? Bah, Fabrice, déjà, il est cuisinier, il est chef cuisinier, donc il travaille avec ses mains, c'est un artisan. Et puis quand on le voit, eh bien, c'est quelqu'un qui fait très attention à sa santé, à sa ligne, qui est dynamique, qui je sais pas combien de casquettes, combien de tocs, j'en sais rien, mais beaucoup, beaucoup d'activités. Et puis donc quand on le voit, c'est quelqu'un de souriant, quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui a toujours quelque chose à raconter, qui a toujours le sourire, même quand il est stressé, il a le sourire, il essaye de transmettre sa bonne énergie. Et puis quand on regarde, comme je le dis toujours dans ce podcast, dans les yeux de Fabrice, qui est la porte de l'âme, là on voit quelqu'un d'empathique, à l'écoute, qui essaye à sa manière, comme le disait Feu Pierre Rabhi, d'apporter sa part de colibri. Et c'est pour ça que pour moi il avait sa place dans ce podcast, Les Passeurs de Clés, le podcast doux des éveillés. Fabrice, bienvenue dans ce podcast, dans ce, je disais tout à l'heure, dans ce voyage.
Merci Cyril, merci pour cette belle présentation.
Bah écoute, je parle toujours avec mon cœur, c'est ce que je dis, ça, tu vois, il n'y a rien d'écrit, ce que je ressens, il y a plein d'autres choses, mais je pense qu'on va aborder tellement de choses dans ce podcast, dans cet épisode, le 124e épisode, qu'à mon avis, on n'aura pas le temps d'aborder tout, mais en tous les cas, on va aborder, je pense, l'essentiel, ce qui est ton essence, vraiment, au quotidien. La première question que j'ai envie de te poser, que j'ai pris l'habitude de poser dans cette cinquième saison de ce podcast, c'est une question très bête et en même temps pas forcément si simple. Pourquoi avoir accepté de jouer le jeu J-E de ce podcast ?
Tout d'abord, j'aime le risque. pour moi, c'était important. On a appris, comme tu le disais tout à l'heure, on a appris à échanger, à se connaître un peu. Moi, j'ai voulu aussi te faire partager des moments qui sont importants et forts pour moi, comme soupe en scène, que tu es rentré complètement en immersion dans cet événement. Et quand tu me l'as proposé, je me suis dit pourquoi pas. C'est pas souvent que je me livre. Je me suis livré pour un de mes ouvrages qui s'appelle L'ordre des choses, où là, ça a été un an de travail avec un journaliste. Pas simple au départ parce que je suis revenu sur la petite enfance. Et moi, je suis quelqu'un qui trace, quelqu'un qui avance. Et c'est rare quand je me retourne pour écrire un livre sur son histoire, on est obligé de se retourner.
Bien sûr.
Et je me suis dit, allez, on va essayer de refaire l'exercice une deuxième fois. Et je l'ai accepté pour toi.
Deuxième question que j'ai envie de te poser. J'ai parlé du lieu où nous sommes. Quand je propose aux femmes, aux hommes que je vais rencontrer pour capter leur congruence, c'est un peu le but de ce podcast, hein, de la congruence, c'est la continuité justement du début jusqu'à la fin dans toute une vie. Qu'est-ce qui fait le lien? Qu'est-ce qui fait la cohérence du parcours de vie? Je demande à mes invités de choisir un lieu où ils se sentent bien, aussi pour faire découvrir le lieu. Mais pourquoi? Donc ici, nous sommes au Sofitel.
Oui.
Hein, Sofitel de Lyon, bord de Rhône. On est au 8e étage. Alors, autant dire que, tu vois, le 8, hein, c'est un chiffre, c'est mon chiffre. Donc 8, je pense qu'on va passer un très bon moment. C'est au-dessus du 7e ciel, donc c'est encore plus haut.
Oui.
Pourquoi ce lieu?
Ce lieu, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est beau, qui est raffiné, qui est élégant. Avec une cuisine aussi, avec un établissement de renom au niveau du restaurant du Sofitel. Je connais très bien le directeur Vincent Galoche qui nous reçoit. Et ici, c'était quand même, on domine la ville, on est tout en haut, on a une vue incroyable. Pour moi, la ville, elle est juste magnifique. On a beaucoup de chance, moi j'ai beaucoup de chance de, chaque jour de pouvoir observer, j'aime bien regarder notre ville quand je cours le matin ou voilà, dès que j'ai un peu de temps, j'aime flâner, en profiter en tout cas. Et puis j'aime la presqu'île, on est au cœur de la ville, mes établissements sont pas loin. Mmh. Quand je dis mes établissements, parce que quand j'avais Acte 1 qui était rue Ferrandière, là on était pratiquement au centre des deux. Donc voilà, c'était important pour moi de choisir ce lieu et Vincent a accepté notre venue.
Alors, petit exercice, premier exercice. Tu sais que moi, j'aime bien laisser les clés justement à mon invité. Si tu devais décrire avec tes yeux et tes mots, en quelques mots, en quelques phrases, ce lieu, pour que celle ou celui qui nous écoute s'immerge avec nous pendant tout cet entretien, tu le décrirais comment?
Alors là, nous sommes effectivement au 8e étage, donc pratiquement tout en haut du Sofitel. Nous avons une vue incroyable sur le Rhône, avec toute l'agitation de... D'un après-midi comme aujourd'hui, un peu gris par contre. Et là, nous sommes dans un lieu très, très cosy, très confortable, avec des sièges velours rouges, très classe, un plafond fleuri. Voilà, c'est très raffiné, c'est très chaleureux. On a une petite tasse de café, on a une petite table ronde vitrée. Voilà,
on est très bien accueilli d'ailleurs par Barbara.
Barbara qui nous a accueillis, qui nous a fait visiter aussi les lieux. Bon voilà, on est bien, on se sent chez nous.
Plutôt propice justement pour cet échange.
Oui, c'est important.
Bien sûr, c'est important parce qu'on le disait justement, être en confiance, c'est pas forcément quelque chose de commun, de pratique, de facile dans notre société aujourd'hui, mais c'est important de se sentir en confiance pour pouvoir avancer. Oui. L'exercice que je vais te demander là, je sais qu'il n'est pas simple, mais j'aime toujours commencer cet entretien réellement par Fabrice Bonneau. En une phrase, si tu devais te décrire, dire qui est Fabrice Bonneau, tu dirais quoi?
C'est pas simple.
Je sais bien.
C'est vraiment pas simple. Fabrice Bonneau, alors c'est quelqu'un qui, comme je le disais à l'instant, qui trace. Pour lui, il a une mission. Il en a même plusieurs d'ailleurs. C'est quelqu'un aussi qui regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui, souvent. Et ça me permet d'avancer aussi bien professionnel que dans la vie. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller chercher autour de moi, peut-être rencontrer des personnes incroyables. Pour moi, je le dis souvent, dans la vie, il n'y a aucun hasard. Chaque rencontre est importante. Il faut juste l'analyser et la comprendre. Un regard, une bousculade, une poignée de main. Il y a quelque chose d'important derrière, souvent.
Tu es un éluardiste ? C'était Paul Éluard qui disait « il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous ».
Exactement, ouais. C'est exactement ça. Oui, pour moi, c'est ce que j'ai voulu transmettre à mes enfants. Et vraiment, c'est important parce que des fois, je pense que si on ne regarde pas suffisamment autour, on peut passer à côté de choses essentielles pour sa vie. Tout à l'heure, je le disais, pour moi, quand j'ai fait ce livre, L'ordre des choses, il a fallu que je me retourne pour l'écrire. Et je me suis aperçu en le relisant que, en fait, ma vie, j'ai pas honte à le dire, tout s'est emboîté, tout s'est enchaîné facilement, avec facilité, on va dire. Simplement, je pense qu'à des moments, les choix ont été les bons et les rencontres ont été là pour justement me permettre d'avancer et d'être l'homme que je suis aujourd'hui.
Alors, les choix, justement, on va en parler.
Oui.
Mais avant de elle est vraiment basculée. Là, pour le coup, on va vraiment rentrer dans le podcast. Tu disais que tu vas vite, en tout cas, tu avances. Quelle place a le voyage dans ta vie?
Alors, le voyage, j'apprécie. J'apprécie, surtout par rapport à mon métier, la culture culinaire, ce qui se passe ailleurs et tout, c'est très important. Après, je suis d'une génération où on n'avait pas trop l'habitude de voyager au début. J'ai fait pas mal de grands et beaux voyages. Mais c'est vrai que c'est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe et même des fois voyager, rester en France aussi, dans des régions, simplement pour les rencontres, pour les échanges culinaires.
Tu disais que tu cours aussi, hein, tu cours le matin,
oui,
tu t'entretiens.
Oui, depuis un an et demi maintenant.
C'est une manière de voyager aussi.
C'est une manière de voyager, effectivement, et c'est important, c'est se sentir bien, c'est se sentir... en forme surtout, et dans nos métiers au quotidien où on est tout le temps debout, on a quand même deux représentations par jour, midi et soir, donc il faut la santé. Et puis je pense beaucoup aujourd'hui à moi, à la cinquantaine, au niveau de ma santé, parce que je me dis si je dois je veux profiter vraiment de chaque moment et de le faire bien et de le faire en forme.
Tu parlais de représentation.
Oui.
Il y a quelque chose d'artistique là-dedans?
La cuisine, c'est... Oui, parce que c'est non seulement ce que l'on va présenter sur une assiette, ce que l'on va mettre en scène, mais c'est aussi l'homme que je suis et que je suis devenu, en fait. Je suis très collé à l'image du restaurant. D'ailleurs, mon nom est en façade et je suis un chef très présent. Le plus souvent possible au restaurant, je suis là pour accueillir le client, le placer à table, prendre sa commande, échanger avec lui. Et je trouve que ça, c'est important dans notre métier. Ça ne se faisait pas avant. Quand je suis arrivé il y a 20 ans à Lyon et que je commençais à accueillir les gens en tenue, j'en disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas sa place et tout ça. Ben si, moi, je pense que ma place, elle est aussi bien en salle pour accueillir que derrière les fourneaux pour préparer. Donc oui, c'est une mise en scène. C'est chaque jour être le même, aimer partager, aimer échanger aussi avec cette clientèle. C'est important je suis là pour répondre à toutes les questions et je ne veux pas me cacher derrière un personnage. Et il y a des chefs qui ne le font pas par timidité ou simplement ils n'aiment pas non plus l'échange. Moi, j'aime cet échange, j'aime cette rencontre-là. Et des fois, quand je rentre chez moi à pied le soir, parce que j'ai la chance d'habiter en presqu'île, je me vide la tête en fait et je me dis mais quel bonheur j'ai eu d'échanger avec ce couple de jeunes, avec ces personnes âgées, avec pour moi c'est la richesse de mon métier aussi, ces rencontres.
L'authenticité, c'est ce que tu disais. Le voyage aussi, il est dans l'assiette. C'est important pour toi de faire voyager
bien évidemment
celui qui vient, qui franchit la porte.
Ouais, puis leur faire comprendre ce que nous on a envie de mettre en scène en fait. C'est ce que je dis souvent. Un chef, c'est très compliqué de cuisiner. Pourquoi ? Quand on cuisine à la maison, déjà, on voit la difficulté quand on cuisine à la maison et quand on reçoit pour quelques convives. Mais pour nous, quand on crée une carte, on va la créer pour 2 mois, 3 mois. Et il faut que cette carte, elle passe sur 80 à 90% des palais. Quand on sait l'attente de chacun, quand on sait l'éducation culinaire, c'est pas évident. Il faut qu'on... Dans la fantaisie du chef, il faut que le chef garde sa fantaisie dans les cuissons, dans les épices, dans les textures, dans les cuissons. Tout ça, c'est quelque chose qui doit passer. Si moi, demain, j'ai un retour sur 2 sur les plats, très vite, je vais me dire c'est pas possible. Donc, il faut que j'ajuste pour que, même des fois à la lecture, je le dis des fois aux clients, parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent que c'est un exercice, on est sur un fil à chaque fois. Parce que... quand un client va goûter un plat, bon, il faut qu'il rentre bien sûr dans ce qu'il vient chercher aussi chez nous, par rapport à la transmission, par rapport à la fantaisie du chef. Mais il faut que ce soit, faut qu'on soit le plus juste et aussi dans les cuissons, il faut qu'on soit précis.
Allez, je vais continuer de cuisiner un petit peu alors, si tu es d'accord. Je parlais de voyage, je te propose de t'emmener en voyage. Mais on n'a pas besoin de bouger. On va rester ici.
Oui.
Si tu es d'accord pour m'accompagner.
Bien sûr.
Alors, j'ai pour habitude, et à chaque fois, je rends en très bon état ce véhicule, j'emprunte toujours, tu sais, la fameuse DeLorean. Tu sais, le voyage
dans le temps.
Voilà, le voyage qui bouge. Je te propose de m'accompagner. Tu montes du côté passager, je prends le côté conducteur. Et on s'envole, on part voyager.
Allez, c'est parti.
Bien alors, hop, les portes se ferment. J'appuie sur le clavier, une date, un lieu. La voiture décolle. Et là, ça y est, c'est parti. On voyage. Ça va très vite, hein. Très très vite, c'est normal. D'ailleurs, on est déjà arrivé. La voiture se pose. Les portes s'ouvrent. Et là, on sort du véhicule. Moi, je connais pas le lieu. En tout cas, je trouve ça super beau. Je trouve que c'est un lieu bucolique, vert, beaucoup de nature. Alors, je te propose qu'on avance. Donc, tu acquiesces de la tête, mais j'ai l'impression que toi, t'es un peu estomaqué. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Et donc, on avance. Et puis, à un moment donné, je vois que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu fixes un point. Je suis à côté de toi, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu fixes un arbre. On avance vers cet arbre. Tu me dis, bah, on va aller par là-bas. On avance vers cet arbre. Et d'un seul coup, en fait, moi, ça m'a surpris, ça me surprend, tu vois, ça. Je suis... Une petite tête qui sort de derrière l'arbre. Bon, toi, tu prends un peu de recul aussi. Et là, forcément, je reprends le dessus quand même. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es jeune pour être tout seul ici, perdu dans cette nature. Ah non, ici c'est chez moi, je connais. Ici c'est ma maison. Ah d'accord, ok. Il dit, mais vous êtes qui vous? Je dis, bah tu vois, donc Fabrice, on est venu avec la voiture là-bas. Moi c'est Cyril. Et toi, comment tu t'appelles? Il nous regarde, il sort la tête, un peu plus en confiance quand même, tu vois, comme on s'est présenté. Donc il sort complètement, il se dégage de l'arbre, il avance vers nous, et il tend la main. Je m'appelle Fabrice. Fabrice, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens, t'as la mémoire de qui était ce petit garçon, 6-8 ans? Est-ce qu'il était déjà hyperactif, la volonté de faire... Est-ce que déjà, il y avait cette volonté d'être chef?
Alors, il n'avait pas la volonté d'être chef. Pas encore, même s'il commençait déjà à cuisiner un petit peu. J'ai toujours été proche de ma maman en cuisine. C'est vrai que j'ai toujours voulu prendre le dessus, les casseroles. J'étais plus en pâtisserie déjà à l'époque, bien avant de savoir que j'allais aussi poursuivre en pâtisserie. Okay. Et avant de commencer, parce que j'ai commencé en cuisine. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'étais plutôt un jeune turbulent. L'école, c'était pas actif. Mon truc, très actif. Voilà, je voulais toujours être... ce qui est marrant, je voulais toujours être le premier. Je voulais toujours être en avant, le premier, me faire remarquer. Voilà, j'étais... voilà.
Est-ce que la nature... Est-ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti était juste? Est-ce que la nature avait une place importante?
Alors, oui, assez. Parce que j'avais un papa qui, à l'époque, avait un grand potager. Et ce que je dis souvent, de voir passer les légumes du potager à la cuisine, à la casserole, c'était toujours incroyable pour moi. D'ailleurs, j'attendais jamais que les légumes mûrissent. voilà, je voulais toujours aller chercher, vouloir le cuisiner, le préparer. Et voilà, des fois, c'était pas le bon moment. Voilà. Mais c'est vrai que oui, j'étais assez proche de la nature. Même si je touchais pas, si je jardinais pas, mais ça m'a toujours...
à l'aise dans cette nature. L'école, les copains, les copines, comment ça se passait? L'école, c'était plutôt un divertissement ou c'était plutôt quelque chose où tu travaillais?
Non, c'était un divertissement, je l'ai dit il y a quelques minutes. Non, j'étais pas... J'étais assez... Mais par contre, voilà, j'étais le premier... j'étais pas le dernier à faire des bêtises, quoi.
Et le premier, est-ce que ça veut dire que... Ben, le premier, effectivement, à faire des blagues, le premier à prendre la parole, enfin... Il y avait, tu disais, cette volonté toujours d'être en avant, d'être le premier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a joué des tours ou qui, au contraire, avec le recul, t'a beaucoup servi?
Non, ça m'a beaucoup servi. Parce que jouer des tours, non. Non, ça m'a servi. Et on va revenir sur cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a peu de temps, ma maman, que j'ai toujours, qui est à Rouen, et elle a croisé une de mes maîtresses.
Oh, tiens.
Et une maîtresse qui se souvient de moi. Donc, une femme déjà qui a un âge aujourd'hui bien avancé. Et elle suit mon actualité aujourd'hui dans la presse, dans les médias et tout ça. Et elle disait à ma maman, il y a peu de temps, elle disait, mais quelle fierté pour nous d'avoir eu Fabrice. Et on se souvient de ce petit gamin, voilà, comment il était et tout ça. Et voilà. Et du coup, j'ai proposé à ma maman de la prochaine fois qu'elle la voit, qu'elle lui... prenne son numéro de téléphone.
Génial.
Et je l'appellerai pour qu'on prenne un café ensemble.
top.
Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Je me souviens de ces dames, elle s'appelait Mademoiselle Paulette, elle s'appelait, c'était juste incroyable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont marqué comme ça cette partie de mon enfance au niveau de la scolarité. Mais voilà, il y en a une ou deux comme ça, ouais, cette personne en fait partie.
Et alors justement, la cuisine, parce qu'il y a forcément un déclic, ça peut être une rencontre, ça peut être un événement. Qu'est-ce qui fait que ce petit Fabrice, qui donc fait sa scolarité, avance? C'est quelque chose qui est apparu quoi, à l'adolescence, plus tard? Quand est-ce que c'est venu cette envie?
13-14 ans, ouais. J'ai eu envie. En fait, je me suis mis à la pâtisserie d'ailleurs, au départ, et je faisais des gros gâteaux, des choses. Et il fallait que tout le monde goûte. J'allais chercher les voisins, j'amenais des religieuses, des éclairs, patachou, toutes les choses qui sont pas faciles. Que ma maman ne voulait jamais tenter parce qu'il y a souvent des risques de ne pas réussir une pâte à choux ou des choses. Voilà, donc souvent je faisais ces desserts-là généreux qui se partagent et puis voilà, je voulais faire goûter à tout le monde. Donc tout le voisinage était ravi dès que je me mettais à faire de la pâtisserie. Et puis j'avais une grand-mère aussi qui cuisinait divinement bien. J'aimais aller chez elle. Là, j'étais plus petit. Et elle avait des recettes traditionnelles, des recettes... voilà, il y a qu'elle qui réussissait à me faire... Parce que j'aimais cuisiner, mais je n'aimais pas manger.
Ah ouais?
Ouais, je n'aimais pas manger. J'étais très difficile. Je n'aimais pas la pâtisserie non plus. Je n'étais pas gourmand.
Pas de sucre?
Pas de sucre. Non, j'étais très difficile. Très, très difficile à nourrir, quoi. Et ouais, pour manger, non, c'était...
Alors, quel était le déclic? C'est une rencontre? C'est un événement? C'est un livre, peut-être?
Non, pas spécialement un livre. Ça a été une rencontre. J'ai la chance d'être dans une ville. Je suis originaire de Rouen. Mm-hmm. À Rouen, on connaît tous cette belle maison Trois Gros.
Bien sûr.
Et à l'âge de mes 18 ans, mes parents m'ont dit, bah, écoute, je suis fils unique. Et ils m'ont dit, ben voilà, on veut t'offrir Trois Gros et on va faire tes 18 ans entre nous. Avant de le faire avec les copains, on va le faire chez Trois Gros. Et on s'est retrouvés dans cette belle maison. C'était assez impressionnant quand même de se retrouver dans cette maison. C'était une première pour moi, 3 étoiles. On s'en souvient toute sa vie. Et on arrive, on a été servi, incroyable. On a eu une cuisine exceptionnelle. Là, j'ai goûté à tout, j'ai mangé à tout. Tout manger pratiquement. Et à la fin, le directeur de salle nous propose de nous faire visiter les cuisines comme ils font souvent. Et oui, on a visité les cuisines et là, ça a été un peu un déclic. Mm-hmm. Je me suis dit pourquoi pas la cuisine. Et après, quand il a fallu chercher un maître de stage, un maître d'apprentissage, voilà, après, je me suis orienté dans la cuisine, dans la pâtisserie, au service. Et quand il a fallu peut-être quitter Rouen, je me suis dit je ne peux pas quitter Rouen sans faire Trois Gros. Et j'ai eu la chance d'être pris chez Trois Gros et d'avoir fait 3 ans avec eux, juste exceptionnel. Et après, ben, tout a démarré ici, quoi.
Alors, on sait, la cuisine, en tout cas, ce métier, c'est beaucoup de rigueur. Mm. Ce qui n'était pas forcément compatible avec le petit garçon qui courait dans tous les sens.
Ouais, mais j'étais assez facile.
D'accord.
Je veux dire, j'avais...
T'étais vivant, quoi, en fait.
Ouais, j'étais vivant. Après, j'ai eu une éducation stricte. Voilà, après, je suis content de l'éducation que j'ai eue. Voilà, c'était...
Et c'est arrivé justement, donc, ce passage de Rouen où tu fais tes 3 ans chez Trois Gros. Mmh. 3-3.
Ouais.
T'arrives à Lyon. Et qu'est-ce qui se passe?
Alors, je ne suis pas arrivé à Lyon tout de suite. J'ai fait Trois Gros. Après, je suis resté quelques années. J'ai eu la chance, grâce à Trois Gros, de faire mon service militaire à Paris.
Ok.
Donc, j'avais... Trois Gros me dit, ben voilà, c'est le moment du service militaire. Bon... je savais qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait des choses qui pouvaient se mettre en place. Et puis un jour, ben voilà, je reçois ma convocation. Vous êtes convoqué. Je fais partie du 92-12. Donc en 92, okay. Je suis parti. En décembre 92, je suis parti faire mon service militaire. Et là, je pars faire mes classes à Soissons. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Parce qu'au départ, on me dit, mais tu vas aller sur Paris. OK, mais bon, je fais mes classes à Soissons. Et je pars pour Soissons, et sur mes papiers, il y avait marqué DPMAT.
Ok.
Et ces lettres-là m'ont suivi.
Et qui signifie?
Eh ben, on le sait après, on va le savoir après.
Ah, d'accord.
Au départ, je me retrouve pour faire mes classes, je me retrouve avec plein de monde tout autour de moi, voilà, des gens de tous bords. Et puis, je m'aperçois à un moment qu'on est quelques-uns à avoir ce papier DPMAT.
DPMAT, d'accord.
DPMAT, et on est un peu mis à part d'ailleurs, et on se retrouve un peu ensemble, pas tout le temps, mais à des moments on se retrouve ensemble. Et puis à un moment, un soir, on nous dit, ben, cette nuit vous allez tous partir dans un camion, mais vous partez de nuit, tous ceux qui ont l'insigne DPMAT. Je dis, ok, pas de problème. On voulait surtout pas d'émeutes, on voulait pas de... Et en fait, on rentre dans un camion militaire, on nous met sous la bâche et on part de nuit. Et là, je comprends qu'on était un petit peu ce qu'on appelle pistonné.
Ok.
Et là, direction Paris, on arrive sur Paris et j'arrive au ministère de la Défense à Paris. Et ça voulait dire DPMAT, direction militaire de l'armée de terre. Voilà, il y avait, voilà, ça voulait, je me souviens un peu exactement non, ce que ça voulait dire, mais c'est un peu ça. Et j'arrive en plein 18e à Mortier, la caserne Mortier, la grande caserne de Paris. Et puis là, après, on nous redistribue et je me retrouve au ministère de la Défense, rue Saint-Thomas d'Aquin, à Paris. Et là, on est quelques appelés. On est là pour servir, pas le ministre, mais on sert le général de l'armée de terre.
Qui s'appelle le mess des officiers.
Le mess des officiers. Et j'étais au service du général Bertin, qui était le général de l'armée de terre. Et puis, je te raconte ça, mais je ne sais pas si tu voulais peut-être couper.
Ah non, mais bien sûr, non, mais non, mais on est là
pour... On continue.
Bien sûr, on continue, oui.
Dans la partie du service militaire. Et du coup, j'arrive là, on se retrouve... donc, il y avait le coiffeur, il y avait le cuisinier, il y avait le serveur. Bon, voilà, ils avaient pris vraiment les gens qui avaient travaillé dans de beaux établissements. Et puis, très vite, celui qui était le grand responsable des messes s'en va. Il avait fini son service militaire, il s'en va. Et un matin, je le croise et il me dit, ben voilà, Fabrice, tu vas venir avec moi parce que je t'ai choisi. Choisi pourquoi ? Ben choisi parce que c'est toi qui vas prendre ma place.
Wow.
Je dis, ben ouais, mais on ne pose pas la question. Donc il me dit, ben écoute, le commandant va nous recevoir dans son bureau. Et voilà, donc je me retrouve dans le bureau du commandant très vite. Et là, à côté de moi, il y a cet appelé qui va quitter ses fonctions. Moi, je suis là. Et le commandant me dit, bah, vous avez 5 minutes pour me dire si vous êtes OK pour reprendre la place de... Je ne me souviens plus de son prénom. Et si oui, eh bien, dès demain, vous prenez vos fonctions. Sinon, bah, vous retournez à la caserne de Mortier. Donc, mon choix, il a été très vite fait. Et tout de suite, j'ai dit, bah, oui, bien sûr, on va... Mais ça a été une charge énorme. Par contre, ça m'a propulsé dans la volonté de continuer de faire des choses incroyables parce que j'avais toutes les clés, en fait. Mm-hmm. On parlait de clés tout à l'heure, mais là, j'avais toutes les clés. J'étais maître de tout et je devais gérer tout ce que le général voulait mettre en place, c'est-à-dire les plus grandes prestations. Au Sénat, j'ai fait une prestation, j'ai le souvenir, dans une cour du Sénat, j'ai fait une presta pour 500 personnes où il n'y avait absolument rien. Et là aussi, on m'a donné les clés, on m'a dit, voilà, tu dois faire un cocktail, tu dois tout mettre en place pour recevoir 500 personnes.
C'est quelque chose qui t'a énormément servi par la suite, même dans ce que tu fais aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la cuisine. Bon, là,
oui,
tu me parles d'événements, enfin,
dans l'événementiel.
Organiser des événements.
Bien sûr, ça m'a servi beaucoup. Ça a été les premières rencontres, les premiers échanges aussi sur Paris. Moi, Paris, c'était important pour moi parce que c'est là qu'on doit se faire, qu'on doit avoir le carnet d'adresses, on va dire. Et oui, ça a été pour moi une richesse de déjà qu'on me fasse confiance. J'avais quoi ? J'avais 20 ans, 21 ans. Et à cet âge-là, de faire confiance, j'étais respecté par tout le monde. J'avais mon chauffeur, j'étais en tenue. Pour un appelé, c'est quand même incroyable. J'étais en civil tout le temps. J'avais mon appartement à Paris. Voilà.
Oh, c'était une super armée, en fait.
Un super job.
Ouais, super job.
Voilà, je suis même parti. Je m'éclatais tellement que je ne regardais même pas le temps que j'y passais. Et quand je suis parti, j'aurais pu partir, je ne sais plus comment on appelait ça, des permes ou des choses comme mm-hmm. ça. Que moi, je m'en foutais. Voilà, je suis parti, j'ai fait 10 mois. J'ai fait mes 10 mois et je leur ai laissé plein de jours qu'ils me devaient. Mais voilà, je me suis éclaté, je me suis fait plaisir dans ce que j'ai fait. Voilà.
On peut dire que c'était le début vraiment de cette aventure réellement de ce que tu fais aujourd'hui.
Bien sûr.
Ton établissement, les équipes que tu diriges, avec qui travaillent avec toi, et puis tout ce qui va autour, ça a été formateur.
Ça a été formateur. Après, Paris, moi, ça me plaisait, cette vie parisienne, cette ambiance, ces rencontres aussi. Pour moi, les rencontres, elles ont été très fortes à Paris, et je le savais, ça. Je savais que c'était là qu'il fallait que je commence à construire quelque chose pour l'après. Et après, j'ai eu la chance de travailler pour Guy Savoy pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis là aussi, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'avancer. Un dénommé Jérémy Claval, qui est toujours un ami proche, et qui m'a permis d'avancer, de rentrer chez Goumard Prunier à Paris. Et chez Goumard, j'ai fini directeur de cet établissement, à savoir que voilà, j'ai été un des plus jeunes directeurs de France à l'époque. C'était un 2 macarons guide Michelin. J'avais une cinquantaine de personnes à gérer, salle, cuisine confondue. Et là, je me suis éclaté. Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'on quitte justement, non pas cette sécurité, ce confort, mais pour se lancer, parce que du coup, ça a été une nouvelle aventure, créer son propre restaurant,
c'est ça.
Prendre des risques.
Alors, oui, prendre des risques, c'est ça. J'aurais très bien pu, j'avais le confort, j'avais le salaire, j'avais tout, j'avais la fonction. J'étais en plein cœur de la Madeleine à Paris, établissement incroyable, renommé. J'étais bien avec la vie parisienne, j'étais bien. Je vous disais, chez Goumard, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Le Gouil, qui est devenu mon associé. Et avec Cédric, c'est moi qui l'ai embauché chez Goumard, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Et très vite, dans mes équipes, j'avais beaucoup de monde autour de moi. Et très vite, dans mes équipes, je me suis dit que ce jeune, il est bien. Ce jeune, on se comprend, on avance ensemble. Et voilà, et puis après, on s'est lié d'amitié. Et le patron qui était Jean-Claude Goumard à l'époque, un jour nous dit, ben voilà, l'établissement aujourd'hui ouvre 7 sur 7. Et par contre, il fallait... un double. Il fallait que quand j'étais pas là, il me fallait quelqu'un qui soit à l'identique de moi sur place. Donc j'ai eu le choix et très vite j'ai choisi Cédric. Je l'ai fait monter, je l'ai mis au même niveau que moi dans la fonction et on a avancé ensemble. Et ça pendant 10 ans chez Goumard, c'est incroyable. Pendant 10 ans, on a avancé ensemble. Et puis un jour, on se pose, on se dit mais tout ce qu'on fait là, on le fait pour quelqu'un, mais pourquoi pas le faire pour nous. Et on a cherché pendant presque un an sur Paris parce qu'on voulait vraiment s'installer sur Paris. Et on ne trouvait pas vraiment ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait, ce qu'on attendait. Et Cédric me dit, bah, écoute, lui, il venait d'avoir une séparation avec sa copine de l'époque. Il me dit, écoute, moi, je pars en Espagne. J'ai mon frère qui a une société en Espagne. Je pars en Espagne. Et puis, quand tu es prêt ou quand tu sens les choses, tu me le dis. Et puis, on verra ce qu'on fait. Et puis, moi, bon, je suis resté sur Paris. Et puis, un jour, je me dis, allez, je vais prendre 3 jours. Lyon, pourquoi pas? C'est une belle ville.
Pas loin de Roanne.
Pas loin de Roanne. Ça me permettait, moi, de me rapprocher. J'avais mon papa qui était malade à l'époque. Et ça me permettait de me rapprocher un peu de ma famille et de pouvoir en profiter un petit peu plus. Et je me suis dit Lyon. Et on est arrivé à Lyon avec mon épouse. On a commencé à chercher des adresses et tout ça. Et puis, un jour, j'appelle Cédric. Je lui dis, bah, écoute, il y a une adresse qui m'est proposée, toute petite adresse, qui est rue Ferrandière. Ça paye pas de mine, c'est un petit lieu sympa. Je pense qu'il y a tout à y faire et tout à y construire. Et Cédric me dit, bah, écoute, allez, on y va. Juste pour te dire que Cédric me dit, on y va. C'est-à-dire, le banquier, c'est moi qui ai tout géré. Et Cédric a découvert le lieu le jour où on a signé.
Totale confiance.
Totale confiance. C'est-à-dire, il avait fait le chèque à distance et machin, tout ça. Le jour où on a signé, il arrive d'Espagne avec ses valises. On rencontre le banquier, que moi j'avais tout négocié par téléphone, ce qui est juste incroyable aussi, je tiens à le dire, parce qu'un banquier aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent confiance juste par téléphone. Donc le banquier, il me l'a avoué par la suite, il m'a dit jamais je n'avais fait ça auparavant, mais vu l'échange que nous avions eu assez sincère au téléphone et assez vrai, parce que moi je suis quelqu'un qui ne triche pas, je dis les choses, et voilà, on avait fait cette rencontre et je pense qu'il ne l'a pas du tout regretté par la suite. Ouais.
Alors, je te propose, Fabrice, ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure qu'on discute, qu'on fasse une petite pause avant de continuer et de parler justement de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que les choses que tu entreprends. Il y a énormément de choses, c'est très très riche. C'est de faire une petite, ce que j'appelle la parenthèse musicale. Une petite parenthèse, c'est l'occasion pour moi à chaque fois de faire découvrir à mon invité, mais aussi à celle ou celui qui écoute ce podcast, une ou un artiste que j'ai envie de faire découvrir.
Avec plaisir.
L'artiste là que j'ai envie de te faire découvrir s'appelle Sarah Caïboti. Sarah Caïbo, en fait, elle est artiste, auteur-compositeur, mais elle est aussi comédienne. Et en fait, le titre que je vais te faire écouter, c'est un titre qu'elle a écrit pendant, tu sais, ce fameux confinement qu'on a eu il y a 4 ans. Et le titre s'appelle « Je sais que t'es là ». Et c'est un titre qu'elle a écrit, en fait, en pensant à sa grand-mère. Donc, je te propose qu'on écoute ce titre. Et après, on continue, on poursuit notre balade dans la vie de Fabrice Bonneau, ça te va?
Ça me va bien.
Allez, on y va, c'est parti. Ça s'appelle donc Sarah Caïbo, je sais que t'es là.
Je sais que t'es là, je sais que c'est toi. J'entends ton rire, j'entends ta voix. Plus t'es parti, plus je te vois. Plus tu t'en vas, plus t'es là. Je sais que t'es là, au coin de mon cœur. j'ai peur. Je sais que t'es là dans ton ailleurs. Je sais que t'es là dans les nuages. T'arrives à calmer mes orages. Tu me rends plus belle, tu me rends plus sage. Qu'il doit être beau ton voyage. T'es là toujours dans ma guitare. Dans mes trop vite, dans mes retards. Je sais que t'es là dans mes nuits noires. Parce que t'es là.
Et voilà, elle s'appelle Sarah Caïbo. Le titre, parce que je sais que t'es là, donc c'est un titre qu'elle avait écrit pendant le confinement. Il faut savoir qu'elle a aussi interprété Bernadette de Lourdes. Donc c'est quelqu'un, c'est une artiste très complète qui compose, auteur, compositrice, interprète, compositeureux. Je sais pas comment on peut dire, mais enfin voilà. Une femme pareil comme toi, tu vois, au multitalent.
C'est très joli, en tout cas, on se laisse porter et emporter par, par ce magnifique texte. Et moi, ça me touche. Il y a une artiste qui s'appelle Esmé, qui est venue cette année à Soupe en Seine. Et son dernier titre s'appelle Mamie. Et je t'invite à l'écouter aussi. C'est un titre qui est très, très touchant. Surtout sur nos anciens, c'est Mamie, elle l'a plus, malheureusement. Voilà.
Bah, écoute, je mettrai le lien aussi de Esmé avec le lien de, de Sarah.
Je veux bien.
Avec le podcast pour que c'est toi qui écoutes, tu puisses aller découvrir cet artiste. Allez, on reprend le fil.
Oui.
Le fil, ce fameux fil dont tu parlais tout à l'heure. On est tous un petit peu sur ce fil. Alors, je le disais, chef, donc cuisinier, chef d'entreprise, mais aussi très investi. Comment est-ce qu'on trouve l'énergie ? Comment tu trouves l'énergie pour t'investir autant ? Tu écris des bouquins aussi ?
Ça, je me pose pas la question. Ça, c'est le genre de choses... moi, j'ai toujours eu envie de faire ce que j'ai là. Il y a des choses qui doivent se faire.
Donc, tu montres ton cœur. Hein.
Oui, il y a des choses qui doivent se faire. Je te le disais tout à l'heure, je suis là pour une mission. Ça, c'est quelque chose que je ressens. La mission tournée vers les autres. Pour moi, ça, c'est des choses qu'on. Je l'ai senti depuis longtemps, mais dans la vie, il y a des étapes pour chaque chose. On doit tout d'abord apprendre. On doit ensuite se former, apprendre un métier, former un capital, une famille. Et puis, à un moment, quand on a le confort de beaucoup de choses, et on a une chance. Ça, aujourd'hui, je vais être là pour être un électrochoc auprès des gens, de se dire que quand on a la chance d'être debout chaque jour, d'avoir la santé, de pouvoir faire ce que l'on a envie de faire, ça, c'est une chance. Il faut juste en prendre conscience. Et c'est le moment où il faut regarder ce qu'on peut faire pour les autres. Et surtout, ce qui se passe autour. Qu'est-ce que je peux faire ? Où je peux apporter mon soutien, mon aide ? Voilà. Donc, moi, la question de se dire l'énergie, je l'ai forcément. Et puis j'ai envie d'abattre, j'ai envie de faire, j'ai envie de voilà les bouquins, ben ça se fait en parallèle.
D'avancer.
D'avancer. Mmh. Les événements, ben ils se font, ils se montent. des fois en difficulté, des fois en douleur comme cette année, mais ça c'est mon problème. Et voilà, c'est pas toujours, c'est jamais simple, même si on a l'impression aux yeux du grand public que c'est réussi, et ça l'est, mais c'est pas simple, il y a un homme derrière, il est là, et peut-être il est un peu, des fois un peu seul et un peu aux manettes de tout, mais voilà, après il faut, faut avancer et faire.
Est-ce que tu valides si je te dis que tout ce qui est simple est complexe? Tu sais, comme un tour de magie, en fait, quelque chose qui te semble simple, c'est la différence que je mets entre simple et facile. Mm. Ce qui est simple, en fait, est complexe. Mm. Pour que ça donne la sensation d'être simple, mm. c'est des heures, des années, des mois de travail.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de travail, on ne compte pas le temps. Et puis, encore une fois, on n'a pas le temps de se poser la question, savoir si on a l'énergie ou pas. Si j'avais pas l'énergie, voilà, je serais complètement à plat et je ne pourrais pas avancer. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai quelque chose qui me porte.
Tu parlais de mission. Oui. C'est un mot important, mission.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est quelque chose c'est ça qui te porte, le fait d'avoir cette foi, en fait.
Ouais, je le sais depuis tout le temps que, à un moment ou un autre, je devais me tourner vers les autres. Voilà. Après, j'ai eu la chance déjà depuis 11 ans de faire énormément de choses, et ça, c'est une belle satisfaction. Moi, aujourd'hui, le plus beau des moments, c'est quand je remets le chèque. Je sais le travail qu'il y a eu derrière. Ça, on l'oublie très vite.
Alors, le chèque que tu remets à l'association?
Oui, les nombreux chèques que je remets aux associations. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est 600 000 euros qui ont été récoltés pour les autres, à travers mon métier, à travers ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire la cuisine. Ça va de la pâtisserie, ça va de la soupe, ça va de la bûche. Et tout ça, c'est des choses, des recettes simples, mais aujourd'hui qui rapportent et qui rapportent pour les autres.
Si je dis quelque part, tu me fais penser à un brise-glace. Parce que tu t'occupes aussi des présidents aussi des commerçants dans le quartier,
oui,
de briser, d'avancer, tu sais, comme ce.
Alors ouais, ça paraît peut-être, mais ça c'est important. Moi je dis souvent, quand un quartier te donne, moi ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis là, et moi j'adore ce quartier Charité. Je trouve que c'est un très très joli quartier, un quartier familial.
Juste à côté,
on connaît les gens, on connaît tout le monde. Et en plus, quand on est commerçant, il y a un moment, il faut rendre à son quartier ce qu'il t'a donné. Et moi, je ne veux pas faire partie d'une association si c'est pour rester dans un fauteuil ou venir simplement à une AG par an. Je fais partie aussi des Toques Blanches Lyonnaises, très belle association lyonnaise qui fait beaucoup de choses. Et c'est pareil, j'ai attendu quelques années avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie du bureau. On est un bureau qui est très actif. On fait de très, très belles choses tous ensemble. On apprend aussi à se connaître, tous ces chefs. Et d'ailleurs, notre assemblée générale aura lieu la semaine prochaine. Voilà, c'est toujours des bons moments. Faire partie d'une association, c'est aussi s'investir, donner de son temps. Et ce n'est pas uniquement attendre de se laisser porter. Pour moi, ce n'est pas ça.
Est-ce qu'au final, quelque part, c'est faire un cadeau? Le cadeau que la vie te fait, de pouvoir partager ce cadeau.
C'est exactement ça, c'est le rendre. C'est le rendre, mais le rendre avec finesse. Mm-hmm. Le rendre avec, avec délicatesse et essayer d'aller chercher vraiment ce que les gens attendent de toi et où tu seras le plus efficace, en fait. Moi, je vois souvent autour de moi, il y a des gens qui font beaucoup, mais qui brassent. Et pour moi, je ne veux pas brasser. Je veux vraiment être dans l'efficacité. Aujourd'hui, quand je suis le président de ma propre association qui s'appelle Envie d'un sourire, cette association, elle a vraiment un sens important. Et si on veut que les gens vous fassent confiance et donnent, il faut être la transparence de ce que l'on fait avec le don.
Donc, congruence, quelque part, sur ce...
Exactement. Pour moi, quand je donne au Centre Léon Bérard, je fais des visites de protocole auprès du centre. C'est-à-dire, il y a peu de temps, j'étais avec quelques artistes proches des enfants malades, proches des familles, pour pouvoir voir aussi ce qui a été réalisé avec le chèque que je leur ai fait. J'ai acheté une quarantaine d'iPads pour que les enfants gardent le lien avec leur famille. Ce qui paraît... tout le monde n'a pas un iPad à la maison.
Bien sûr.
J'ai financé deux plateaux d'accueil jour. C'est-à-dire avant, quand un enfant était suivi et soigné à Lyon, les parents qui venaient passer la journée avec leur enfant se retrouvaient dans un bout de chambre ou dans un coin de couloir. Ça, quand on ne le vit pas, on ne peut pas le savoir, quand on n'est pas touché, en fait. Et ça, à travers l'association, aujourd'hui, c'est des choses que je montre. Et avec Soupe en Scène, on a financé deux plateaux d'accueil jour. Pas en totalité, ça a coûté 400 000 euros. Mais en fait, c'est une terrasse au premier étage de l'IHOP, une terrasse extérieure qui était inexploitée et inexploitable. Et cette terrasse, on en a pris la moitié. On a fait un très joli projet où on a créé deux appartements jour. Où aujourd'hui, quand un enfant est suivi à l'hôpital et quand la famille arrive, et quand on sait que le rapprochement des deux est très important pour vaincre cette maladie, eh bien, ils se retrouvent, on leur donne les clés le matin, ils nous rendent les clés le soir. Il y a un coin cuisine, il y a un coin salon. Et là, ils peuvent cuisiner, rire, pleurer ensemble. Et ça, c'est très, très important. C'était important pour moi de voir aboutir ce projet. J'ai même mis en lien mon architecte, qui est une femme, qui est Émilie Chosy, une femme incroyable. Et ça, Émilie, elle me connaît bien et elle a travaillé les couleurs, le choix de la matière, pour vraiment rendre encore plus chaleureux ces espaces-là.
Alors, on parle de cadeaux, d'accord, hein, c'est, là, on parle de cadeaux que la vie t'a fait, que toi, tu refais. Moi, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de mes passeurs de clés, de mes passeuses de clés, quand ils acceptent de jouer ce jeu-là, bah, de venir avec des cadeaux. C'est normal. Mmh. C'est logique. Mmh. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me semble logique. Alors, ce que j'appelle les cadeaux, c'est en fait des questions de l'invité surprise. En fait, je demande à des personnes qui te connaissent ou pas, si elles veulent te poser une question. Mmh. Peut-être qu'elles n'ont jamais osé te poser la question.
Peut-être
que... Alors, je le fais parce que dans ce podcast, on répond à ce qu'on veut répondre. Il n'y a aucune obligation. Première question, est-ce que tu es d'accord pour écouter? Parce que j'ai 4 cadeaux pour toi aujourd'hui.
Ah oui.
Est-ce que tu es d'accord pour écouter ces cadeaux?
Oui, je suis d'accord.
Et deuxièmement, d'y répondre si tu peux y répondre ou si tu veux y répondre.
Bien sûr.
Ouais.
Sans problème.
On y va avec la première.
Allez.
Le premier cadeau?
Oui.
Première question de l'invité surprise. Alors, comme
c'est chouette ça, moi j'aime bien.
Comme je suis un petit peu taquin. Comme je suis un petit peu taquin. Je vais essayer, tu vas essayer aussi de deviner qui te parle, bien entendu.
Sûr.
C'est ça le jeu. On y va ?
Allez.
Allez, c'est parti.
Cher Fabrice, si tu n'étais pas devenu chef de cuisine, quel métier aurais-tu aimé exercer ?
Alors.
C'est ma Karine.
Karine Tessandier, exactement, que tout le monde connaît, hein, qu'on voit dans différentes émissions, notamment qui aime bien la cuisine aussi.
Oui.
Alors, la question de Karine.
Alors.
Si tu n'avais pas été cuisinier,
alors, je te disais tout à l'heure, il y a très peu de temps, que j'ai une architecte. Et c'est vraiment le métier que j'aurais aimé faire.
Être architecte. Construire, remarque.
Pas construire, être plutôt architecte d'intérieur. Moi, j'aime la déco, j'aime la matière, j'aime tout ça. Et en fait, c'est pas si loin de notre métier. Quand on fait une recette, on compose de la même façon.
Exactement.
C'est le choix de la couleur, le choix de la matière, le choix de la texture. Tout ça, aujourd'hui, ça, c'est toute une mise en scène. Et moi, qui suis proche des architectes qui ont travaillé avec moi, parce que tu connais Cuisine et Dépendance, le lieu est très chaleureux,
tout
convivial. Chaque couleur est choisie, chaque matière aussi. Et c'est une harmonie qui est pour moi, que j'adore. Oui, voilà, c'est le métier que j'aurais aimé faire.
Architecte culinaire, tiens. Voilà un nouveau métier.
Ouais.
Tu as toutes ces recettes où tu vois ces gâteaux formidables qui ressemblent à des téléphones qu'on coupe.
Ouais.
Voilà, pourquoi pas faire des bâtiments aussi qui se mangent.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Charlie et la chocolaterie. Bon, deuxième cadeau. Deuxième question de l'invité surprise.
Oui.
Là, c'est un homme.
D'accord.
Ok. On y va ?
Allez.
Bonjour Fabrice. Il y a 7 ans, tu as créé L'Envie d'un sourire. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Pourquoi es-tu venu dans le monde associatif ?
Alors, pourquoi es-tu venu dans le monde associatif ? Qui est cet homme ?
Alors, tout de suite, la voix, je me suis dit, je connais.
Ouais.
Et après, j'ai vite perdu le fil. Là, c'est terrible, terrible. Alors,
pourquoi ça te lancé dans l'associatif ? Alors,
ben, je le disais, tout simplement, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis longtemps, c'est-à-dire m'intéresser aux autres et de pouvoir aujourd'hui avoir cette force d'aider en mettant en place cette structure qui est l'association qui... mon association avec mes plus de 200 bénévoles qui sont à mes côtés, il faut le dire, hein. Seul je ne suis pas grand chose, mais avec les 200 bénévoles, de pouvoir tendre la main et aider aujourd'hui, ça c'est juste extraordinaire. Et encore une fois, qu'est-ce qui m'a donné l'envie, c'est de me dire que j'ai de la chance, voilà, tout simplement, me dire d'avoir la chance d'avoir une petite famille, d'avoir la santé, d'avoir un toit, un resto qui fonctionne. Il est où le problème ?
J'ai donc la volonté de transmettre, en fait.
Ouais,
la transmission.
Non, d'aider, ouais, surtout, d'aider. Ouais, d'aider. La volonté d'aider, de tendre la main. Et voilà, j'aide, on va le dire, mais j'aide les plus démunis avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, j'aide l'IHOP du centre Léon Bérard, j'aide l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, j'aide Eden et Abel, deux enfants qui sont malheureusement atteints de la maladie de Saint-Philippot. C'est la première fois sur ce cas-là que je me penche sur le cas d'une famille. Leur histoire m'a bouleversé et on a réussi à avoir le numéro de téléphone de la maman. Et un soir, j'appelle Farah. C'est Farah et Tommy, les parents. Et j'ai dit à Farah, voilà, je suis un chef à Lyon, un chef engagé, solidaire, et j'ai envie de vous tendre la main et de vous aider. Et voilà, et je ne les lâche pas. Et depuis 2 ans, on est ensemble et on essaye d'avancer.
avant d'écouter la... Alors, la personne qui t'a posé la question, c'est quelqu'un que tu connais bien, qui accompagne quasiment tous tes événements d'ailleurs.
C'est Frédéric Renaud ?
Pas du tout. Pas du tout. Alors, il s'appelle pas Dédé. Il s'appelle pas Dédé, non, il s'appelle... Alors, écoute, tu veux que je te donne un indice ?
Un indice.
C'est un indice, je te montre quelque chose ?
Ouais. Sur Scoop, c'est Renaud.
Non.
Philippe Pérez.
Oui. Voilà. C'est Philippe Pérez qui est le patron de Radio Scoop qui t'a posé cette question.
Et oui.
Pourquoi est-ce que tu es venu à l'associatif ?
Ouais. Et je connaissais... et sa voix, c'était tout au début, mais j'ai perdu le fil après. Donc, c'est très déstabilisant quand même ton exercice.
Allez. Avant même qu'on passe à la troisième question d'invité surprise, tu parlais de rencontre. Et je crois qu'il y a une rencontre sur laquelle il faut quand même un petit peu focaliser. En tout cas, on ne peut pas ne pas parler de cette rencontre. C'est avec Hassen. Une rencontre incroyable avec cet homme qui, d'ailleurs, je crois, va bientôt avoir un documentaire tourné sur son cheval.
Ouais.
Qui est un cheval incroyable, qui est atteint d'autisme, d'un trouble autistique, et qui détecte, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, des cancers chez des enfants ou chez des plus grands,
chez tout le monde.
Peyo, c'est ça ?
C'est ça, Hassen et Peyo.
Comment est-ce qu'on arrive à rester soi après une rencontre comme ça, parce qu'il y a une transformation ?
Ouais, c'est une rencontre extraordinaire, c'est les cadeaux de la vie. Il le dit de la même façon, hein, c'est quelque chose qui était une évidence. On devait se rencontrer. La rencontre, elle s'est faite maintenant il y a 8 ans, 8-9 ans. Très simplement... Moi, très engagé auprès de l'hôpital l'IHOP du Centre Léon-Bérard, et je vois un documentaire sur un cheval qui rentre dans les hôpitaux. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc-là. Allez, je me sens fort de l'engagement que j'ai auprès de l'hôpital. Et je me dis, si je pouvais financer la venue de ce cheval qui s'appelle Peyo à l'IHOP. Et là, sur les réseaux, je prends contact avec Hassen très vite. Je lui envoie un petit message. Je dis, voilà, qui je suis à Lyon et machin et tout ça. Et en quelques secondes, Hassen me répond en me disant « Mais ça aurait été avec grand plaisir, mais je ne suis pas accepté dans tous les hôpitaux. » C'est pas si simple que ça. Et en fait, j'avais pas suivi tout le sens. Je l'ai appris après, par la suite. Et puis, très vite, il me dit « Ben, moi, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. C'est super tout ce que tu fais, tes engagements et tout. Si tu veux, je t'accompagne sur les prochaines éditions de Soupe en scène ou autre. Je veux bien être à tes côtés. » Et puis, très vite, il est arrivé à Lyon parce qu'il suit l'hôpital.
Il est dans le 42, lui, c'est ça ? Il est en Isère ? Non, pas du tout. Il est dans le Nord ?
Non, pas du tout. Il est dans le Nord. Il est du côté de Calais.
D'accord.
Et du coup, il vient à Lyon souvent, deux ou trois fois par an, à l'hôpital femme-mère-enfant, parce qu'il suit il a beaucoup de patients sur l'hôpital. Aujourd'hui, il a 22 hôpitaux dans le monde. Mm-hmm. Peyo prend l'avion. C'est un cheval qui fait trois fois le tour du monde par an. Et voilà, c'est un cheval extraordinaire. J'ai eu la chance et ça, c'est vraiment une chance et c'est un sacré privilège. J'ai eu la chance de rentrer en immersion avec lui au mois de septembre, c'est-à-dire je suis parti sur Calais et j'ai voulu vivre, je suis un des seuls d'ailleurs à qui il l'a proposé aujourd'hui, j'ai voulu vivre pendant 4 jours un peu ce qu'ils vivent au quotidien et rentrer dans les hôpitaux avec Peyo, justement de suivre ce cheval qui est le docteur Peyo et qui frappe aux portes et qui va voir ses malades. On était dans des soins plutôt palliatifs, donc je ne suis pas... rentrer dans les chambres, c'était pas du tout ma place. Par contre, voilà, j'ai vu son quotidien. Voilà, il m'a expliqué
la relation qu'il a avec son
animal. Ouais, la relation qui est juste exceptionnelle, mais c'est aussi ça va beaucoup plus loin que ça. Peyo donc accompagne son patient et Hassen après fait le travail, c'est-à-dire aussi après le décès.
Oui, d'ailleurs.
Les chambres funéraires et tout ce qui s'ensuit, voilà tout ce qu'il y a autour.
Il fait beaucoup de choses pour justement des enfants aussi.
Pour les enfants, il fait beaucoup pour les adultes, pour les personnes âgées. D'ailleurs, son projet aujourd'hui, c'est de donner de la vie dans la fin de vie et de créer des centres en France justement où que les gens puissent partir les derniers moments en toute dignité avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment, ce qui n'est pas souvent le cas parce que quand on est dans un hôpital, on le sait ou on ne le sait pas, mais souvent les portails se claquent et on laisse partir les gens seuls. Voilà. Et ça, c'est juste insupportable. Et Hassen a voulu justement monter ces structures. Et d'ailleurs, je l'accompagne sur pas mal de projets. On aimerait en avoir un en Rhône-Alpes. Voilà.
Bah écoute, bien entendu.
Donc oui, ça a été une rencontre extraordinaire entre ces deux-là, entre Hassen et Peyo. Hassen est un ami maintenant très proche. Peyo est rentré deux ou trois fois dans mon restaurant. voilà, maintenant, ils viennent pratiquement chaque année à Soupe en scène. Et voilà, alors c'est vrai qu'il attire beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux. C'est quand même unique. C'est le seul cheval au monde à détecter les tumeurs cancéreuses et à rentrer dans les hôpitaux. C'est 3 jours de préparation pour Peyo quand Hassen le prépare. C'est-à-dire il le nettoie à la lingette complètement. Et c'est 3 jours de préparation. Et voilà, après... il se passe des choses incroyables et ce cheval, il est dans sa bulle au quotidien. Par contre, quand il sort de sa bulle, et c'est pas bon signe. Voilà. Mm-hmm. C'est vraiment là qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. En fait, Hassen dit, il marque, il va marquer quelqu'un. Voilà. Mm-hmm. Et souvent, c'est aperçu que les personnes qu'il marquait mouraient rapidement.
Je te propose une... En tout cas, on salue le travail d'Hassen et de Peyo.
Ouais, incroyable.
Effectivement, moi j'ai eu la chance aussi de le rencontrer au dernier soupe en scène. C'est quelqu'un en plus qui a toujours le sourire, qui est incroyable, qui a une aura fantastique. Allez, une troisième question d'invité surprise, troisième cadeau.
Allez, c'est parti.
Avant-dernier cadeau.
Ouais. Je t'ai dit qu'il y en avait j'adore, hein. J'adore. Ouais, t'adore. Je suis bon, désolé pour Philippe, mais...
Non, mais pas tout. Allez, on y va maintenant. Toujours un homme.
Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Ma question, c'est pourquoi est-ce que tu as souhaité t'investir et te donner pour les personnes sans abri?
Alors, pourquoi les personnes sans abri? Alors là, je te vois dubitatif. Alors,
c'est Sébastien Gutt.
Oui, bravo.
Ouais, ouais.
Sébastien Gutt.
Alors, Sébastien, c'est le responsable de communication du foyer Notre-Dame des sans-abri. Pourquoi m'investir pour les plus démunis? Bah, parce que notre vie, elle peut basculer d'un moment à l'autre. Très vite, et là, je m'en suis aperçu... j'ai appris avec toutes ces années maintenant que j'accompagne le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Je suis d'ailleurs et la fierté d'être le parrain du centre d'accueil d'urgence mère et enfant à Perrache. C'est un centre d'accueil parce que malheureusement encore aujourd'hui en 2024 il y a des mamans qui accouchent dans la rue. Et là on est ce centre est là pour justement prendre soin de l'enfant tout de suite, lui apporter les premiers soins, les premiers suivis, les premiers papiers. Et de, bien sûr de s'occuper de la maman et ensuite de les orienter sur d'autres centres d'accueil du foyer. Voilà, parce que ça peut être... on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Ça peut nous tomber dessus d'un jour à l'autre et ça peut tous nous toucher. Donc voilà, quand on a la chance de tout avoir, eh bien, il faut regarder ces gens-là aussi. Parce que souvent, on a tendance à les oublier. C'est-à-dire, on va descendre de son immeuble, on en aura en bas de chez nous, on ne les verra pas.
Invisibles ?
Ouais, c'est des gens qu'on ne veut pas voir, surtout.
Et pourtant, quand on prend juste le temps de leur dire bonjour, de les saluer, il y a des étoiles dans leurs yeux, quoi.
Incroyable. Récemment, avec cette vague de grand froid, je ne pouvais pas rester chez moi au chaud, confortablement installé. Et en 48 heures, j'ai organisé une grande maraude à Lyon. Mmh. J'ai cherché ce qui pouvait les aider. Je me suis très vite aperçu que les couvertures de survie étaient quelque chose d'important pour eux. J'ai réquisitionné toutes les couvertures. J'ai acheté dans les pharmacies lyonnaises les couvertures de survie, à savoir qu'ils en ont pas. Ils ont 3-4 par pharmacie. Donc j'ai beaucoup bougé. J'ai sollicité mes commerçants. Et je leur ai dit, donnez-moi de la matière première. Et là, je vais leur cuisiner quelque chose. Et j'ai cuisiné, j'ai sollicité mes bénévoles. Et on a organisé pour la première fois pour moi une grande maraude. Et on est parti jusqu'à 2h du matin dans les rues de Lyon. J'avais quelques médias autour de moi. Et les médias me disent, mais chef, ils sont tous sous pérage. Là, il y en a 30. Ah ouais, là, c'était la facilité. En 10 minutes, un quart d'heure, j'avais tout donné. Je rentrais chez moi au chaud, tranquille. Non, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais aller chercher les gens isolés, les gens qu'on avait presque oubliés. À des entrées de parking, dans des halls d'immeubles et tout ça. J'ai rencontré des jeunes que je connais bien d'ailleurs, qui étaient Place de la République, un jeune couple. La petite, elle a 19 ans, lui a 22 ans. Et ils étaient là et ils sont rejetés des foyers parce qu'ils ont 2 chiens chacun. Mmh. Et voilà, ils ne peuvent pas se séparer de leurs chiens, ce n'est pas possible. Moi qui adore les animaux, déjà que voilà, c'est important. Et encore plus eux parce que c'est le seul lien qu'ils peuvent avoir, c'est la chaleur humaine qu'ils ont autour. Et puis leurs animaux, voilà, c'est très important.
Il faut savoir aussi qu'effectivement, quand on vit dans la rue, les animaux, c'est aussi une protection.
Une défense, bien sûr, contre tout ce qui peut se passer. Et puis on a avancé, on a continué, on est arrivé jusqu'à Hôtel de Ville. Et là, j'ai ramassé une grande claque parce que j'ai rencontré une femme qui avait plus de 60 ans. Et en plus, les gens étaient touchés que le chef quitte ses fourneaux pour eux. En fait, j'avais une grande parka et j'avais ma veste dessous. Et c'est vrai, quand je bougeais, bien des fois, la veste, elle se voyait. Et je voyais que, à leur regard, que c'était très important aussi. J'en avais pas pris conscience, mais que c'était très important que le chef soit là, que pour eux. Donc je leur ai non seulement amené un plat chaud, on a discuté avec eux, et puis cette grande claque que j'ai prise, c'est cette femme de 60 ans qui passait sa première nuit dehors. Ses dernières économies, elle les avait passées dans les trois dernières nuits d'hôtel. Elle avait acheté un téléphone à 156 euros pour garder le lien. Elle ne voulait plus être un poids pour sa famille. Et elle se retrouve sur les marches de l'opéra. Et là, fort de me dire, je fais un gros événement qui s'appelle Soupe en scène. Madame, dès demain matin, j'appellerai le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. On va vous sortir de là. Et le soir même, on fait le 115. Mes équipes font le 115 et on essaye de trouver une solution. Et le 115 me dit non, il n'y a pas de solution pour cette dame. Elle n'est pas en difficulté. Elle n'est pas agressée. On a des places pour des hommes et pas pour des femmes. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Donc, je me dis bon. Donc, cette dame, je ne pouvais pas la laisser là. On la sentait inquiète de passer sa première nuit dehors. Il était quoi ? Il était 23h, minuit. Et il y avait un démuni juste à côté. Je lui dis, ça craint ici. Il me dit, ben oui. Il me dit, sa dame, il ne faut pas la laisser là. Donc, on a trouvé un hall d'immeuble où elle allait être au chaud. Elle allait passer la nuit confortablement installée. Et dès le lendemain matin, j'appelle, à 7h du matin, j'appelle le président du foyer en lui disant, voilà, j'avais pris le numéro de téléphone de cette dame. Et j'ai dit, voilà, il faut lui trouver un toit pour cette nuit. Et il me dit, mais non, il n'y a qu'une solution, c'est le 115.
Ah ouais, on tourne en rond.
On tourne en rond, il n'y avait que le 115. Donc voilà, je me suis rapproché de la ville de Lyon. J'ai la chance de connaître à la ville les personnes qui sont proches de la solidarité. Donc là, j'ai remis le numéro de téléphone et je leur ai dit voilà, maintenant vous s'occupez de cette personne, vous pouvez l'appeler. La chance aussi d'avoir la police, parce que la police aujourd'hui avance aussi sur des dossiers un peu en difficulté comme ça, où on peut accélérer les choses. Donc voilà, j'ai essayé de mettre le réseau en route et de pouvoir apporter mon réconfort et mon soutien auprès de cette dame.
Tu parlais de Soupe en scène, justement, c'est un événement important qui maintenant fait partie du paysage lyonnais, hein, de cette capitale des Gaules, comme on l'appelle. C'est combien de bénévoles ?
Alors, Soupe en scène, c'est 200 bénévoles, parce que là, tout le monde est actif, tout le monde est sur le terrain. Soupe en scène, aujourd'hui, fait partie du paysage lyonnais. Il ne m'appartient plus. Aujourd'hui, j'ai cette chance de me dire, j'ai installé quelque chose qui me... Alors, je le fais chaque année, je le mets en place, mais aujourd'hui, il appartient aux Lyonnais. Parce que je le vois bien dans la rue, quand je croise les gens me disent, mais chef, vous revenez pour la soupe ? Oui, bien sûr, je reviens pour la soupe. Et on sent que c'est un moment... très important. Et quelqu'un me disait encore ce matin, me disait que Soupe en scène, c'est la fierté de la ville, c'est la fierté de la solidarité à Lyon. Et ça montre aujourd'hui, au cœur de la ville, cette solidarité.
Rendre visibles les invisibles et en même temps, montrer qu'il y a des solutions.
Oui, de montrer des solutions. Et puis le fait de le faire Place de la République, c'est pas par hasard. Mmh. La Place de la République, elle est très importante pour moi. Alors souvent, chaque année, on me dit « Mais chef, vous pourriez aller sur une place voisine, vous écartez du centre-ville, on sent que vous êtes à l'étroit. » Ben, peut-être.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, Rue de la République, c'est la plus longue rue piétonne,
oui,
de Lyon, la plus longue, oui, la plus large. Mais c'est aussi effectivement Place de la République.
Cette place.
Un endroit, une place importante.
Cette place qui est au centre. Et cette place, déjà par son nom, elle est très forte par son nom, mmh, République.
Bien sûr.
Et c'est à la fois une place et une rue. Et aujourd'hui, ce que je fais, je le fais pour les gens qui sont dans la rue. Et ce trafic qu'il peut y avoir sur cette place pendant 4 jours, cette effervescence, c'est de me dire, tu l'as vu cette année, il y a, mm-hmm, des concerts qui sont gratuits.
C'est traversant, hein, les gens passent.
Voilà. Les gens peuvent venir, s'arrêter, se poser, prendre une soupe, consommer, écouter,
rencontrer,
ce qui se passe, rencontrer. Mais c'est aussi de dire, je fais du bruit où je suis, on est dans des quartiers favorisés, et de se dire, vous qui êtes confortablement installés, descendez, venez, consommez un bol de soupe et vous ferez un geste solidaire pour accompagner les démunis. Donc voilà, c'est tout un sens Soupe en scène, c'est pas par hasard cette Place de la République, c'est, pour moi c'est important et c'est pour ça que je me bats chaque année pour la garder.
Alors justement, puisque tu parles de Soupe en scène, et je t'ai dit que il y avait quatre,
oui,
quatre cadeaux, quatre questions
de
surprise. Et oui, là on en a eu trois. Mmh. Alors, c'est arrivé peut-être aller deux, trois fois sur les 124 épisodes maintenant, puisque tu es le 124e, mais la personne qui va te poser cette question est là, juste en face de toi. Quand je lui ai parlé, je lui ai proposé, elle m'a dit « Non, mais en fait, moi, je vais venir. Pourquoi est-ce que je vais envoyer un vocal ? Autant que je participe et que je vienne et que je sois là. » Alors,
c'est une belle surprise, en tout cas.
Nathalie, qui est en train de filmer, qui connaît bien le job, d'ailleurs, hein, voilà. Je vais lui tendre le micro,
oui,
qui est là, ici, hop, et je vais lui demander de poser sa question. Alors, attends, hop, oh là là, hop, 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 tac, hop, alors, attention, voilà, ça, c'est voilà, en direct. Là, normalement, on doit t'entendre, hein.
Allô, allô.
Vous voilà, très bien, super. Oui.
Bon, alors ma question, Fabrice, on s'est connus il y a à peu près 13 ans.
C'est ça.
Quand on a eu le bonheur de tourner 3 jours avec Odile Madéi, l'émission Goûter Voir, qui se passe en 3 temps. Préparation avec moi d'abord. Mm. Hein. Après, il y avait le repérage avec Odile, deuxième étape. Et pour toi, la troisième étape, c'était le tournage.
C'est
3 jours d'immersion avec toi.
Un beau moment. Hein.
Dans ta famille. Mm. On avait mis du temps à faire cette émission parce que acte 1, après il y avait acte 2.
Oui.
Acte 2 avait brûlé.
Oui.
Et
une page sombre de notre carrière.
Et ouais. On a quand même tenu le coup, on a réussi à faire cette émission ensemble.
C'est chouette.
C'était une des dernières que j'allais préparer pour moi parce que ma fatigue physique faisait qu'il fallait que je change de métier. J'allais passer moi personnellement un acte 2 aussi, tu vois. Et donc la question que je voulais te poser aujourd'hui, c'était est-ce que Soupe en Scène, maintenant qui est très connue dans la capitale des Gaules, est-ce que Soupe en Scène ne mériterait pas de partir à Paname, là où tu as commencé tes classes justement?
Alors oui, Nathalie, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. J'aimerais aujourd'hui que Soupe en Scène, sans partir à Paris, mais...
Voyage
qui est, oui, qui est quelque chose qui se passe au niveau national. Pour moi, ce n'est pas uniquement Lyon, c'est vraiment au niveau national. Je travaille dessus déjà depuis un bon moment. Ce n'est pas si simple. Mm-hmm. Mais j'essaye aujourd'hui, et ma volonté, ça peut voir le jour très rapidement, c'est que j'aimerais créer la journée de la soupe.
Okay.
Mais tout ce qu'il y a autour de la soupe, toute cette solidarité et cette entraide. Aujourd'hui, la soupe, elle est accessible à tout le monde, dans tous les foyers, partout, on peut faire de la soupe. D'ailleurs, à Soupe en Scène, les gens viennent chercher aussi une recette de soupe, une variante, une nouveauté, une fantaisie, quelque chose d'incroyable, et ils vont essayer de la reproduire chez eux. Et de se dire, voilà, chaque foyer, on va pouvoir faire la soupe, dans les écoles aussi. La journée de la soupe, on faisait bien à l'époque la journée du bol de riz. Bien, faire la journée de la soupe. Et c'est tout le symbole de la solidarité, de l'entraide qu'il y aura autour de ce bol de soupe.
Et de la transformation de la matière première.
Transformation. Aujourd'hui, on travaille des produits simples, on travaille des produits de saison. Voilà. Et puis, c'est accessible à tout le monde. Les légumes, quand on les achète en pleine saison et quand on achète de bons légumes, ça ne coûte pas cher.
Journée nationale de la soupe.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est mon souhait, c'est ma volonté et c'est ce que j'aimerais mettre en place avant de développer Soupe en Scène plus largement.
Est-ce que la réponse... Bien sûr. Est-ce que je peux poser une autre question? On y va, allez, parce que a priori, Fabrice adore ça. Donc...
Oui, et puis moi, je suis assez curieuse et puis je t'aime tellement et je connais aussi ta famille. Je voulais savoir, de mémoire, je crois que tu as 3 enfants.
Oui.
Je voulais savoir si de tes 3 enfants, il y en a un qui va faire un acte 3 de...
Dans la cuisine. Alors, j'ai 3 filles. Elles ont choisi des routes complètement différentes. J'ai mon aînée qui est fière aussi de leur réussite, toutes les 3, parce qu'elles sont incroyables, toutes différentes. L'aînée est bientôt docteur, elle est en psychiatrie pour enfants, elle est à Paris, elle est proche du professeur Cohen, à la Salpêtrière. J'ai Lou qui est juriste aujourd'hui, qui travaille pour nos forêts, elle est à l'ONF.
Okay.
Et puis ma petite dernière, Solis, qui, voilà, pour l'instant, elle cherche encore sa voie, elle a du temps.
Artiste, peut-être.
Ouais, peut-être, elle vient d'avoir 19 ans. Après, je sais que Solis cuisine très, très bien. Vraiment, elle prend du temps, elle adore ça. Aujourd'hui, je pense que, elle serait plutôt orientée pour être diplomate ou partir sur d'autres... c'est ses études. Mais après, voilà, souvent, j'ai tendance à dire, et la question souvent qui m'est posée, de dire, mais qui prend la suite ? Souvent, j'ai tendance à dire la page, elle s'est ouverte avec moi et je pense qu'elle se refermera avec moi. Il n'y a pas de poids et de pression à mettre aux enfants. Souvent, c'était la transmission parce que le papa ou la maman faisait ça. Et les enfants se devaient, avec une pression terrible, se dire on reprend la suite. Eh bien non. Si par chance, peut-être, un jour, une de mes filles me dit « Papa, je veux être restauratrice, je veux faire le métier que tu as fait », eh bien je les aiderai, je les accompagnerai le plus possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout leur volonté, leur choix. Elle cuisine très bien et je pense Solis cuisine très bien et je pense qu'elle le fait juste par plaisir et par passion et elle aime le partage. La cuisine avant tout, c'est peut-être pas vouloir en faire un métier, mais c'est surtout le partager. Et Solis, ce qu'elle aime aussi, c'est quand je lui donne mon avis sur ce qu'elle fait. On a commencé cette rubrique avec le voyage et Solis est très attirée par le Japon, comme beaucoup de notre jeunesse aujourd'hui. Et elle aime mixer justement la cuisine française, la cuisine japonaise et elle me fait des trucs, elle me fait voyager, c'est des trucs incroyables.
Est-ce qu'au final, ce que tu exprimes, c'est, non pas absence, mais en tous les cas, en retrait, cet ego qu'on pourrait avoir de j'ai envie de faire la suite, j'ai envie d'exister encore après. Non, c'est cette simplicité. On parlait de simplicité aussi, tout ce qui est simple et complexe. C'est complexe d'être simple et de rester dans cette simplicité tout en restant authentique.
Oui, alors il n'y a pas d'égo.
Tu vois, on parle d'authenticité. Juste, c'est je trouve que le spectacle de la vie, on parle d'authenticité. Regarde, ça, c'est le type de spectacle. Une barque en bois avec deux personnes, avec des vieilles rames en bois. Incroyable. Sur le Rhône, qui est un fleuve, qui a un courant énorme. Quel courage.
Part de risque.
Part d'authenticité. Ouais, c'est vrai. Part de risque.
C'est vrai.
Ça illustre bien, d'ailleurs.
Et c'est exactement ça. Mais de dire aussi que j'ai la chance et la fierté d'avoir eu le... Alors, je n'ai pas fini. J'ai encore quelques années devant moi. Mais je pense que j'ai tracé ma route. Je suis fier de ce que j'ai apporté. Fier aujourd'hui d'avoir aussi laissé une trace dans l'histoire. Parce que j'ai 10 livres aujourd'hui, plus de 10 livres qui se vendent très très bien, qui sont partout. Et de se dire, quand on écrit un ouvrage, on est archivé à la Bibliothèque de France. C'est-à-dire de se dire que nos ouvrages resteront à jamais dans l'histoire. Et ça, que ce soit ma bande dessinée, que ce soit les différents ouvrages de transmission des recettes et tout ça, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui était important de le faire. C'est aussi une image, c'est quelque chose qu'on a voulu installer et mettre en place. Et voilà, et ça, c'est, ça, au moins, ça restera. Ça sera quelque chose qui marquera. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que quand les établissements ferment, eh ben, très vite, on oublie derrière. On oublie qui était là, on oublie comment ça s'est passé. Voilà, et je pense que c'était important de marquer... De marquer ce passage-là.
Quand tu me dis ça, spontanément, je pense à Bernard Loiseau. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, cet homme qui a tellement donné, qui en fait s'est dépensé, a même peut-être même grillé trop vite, mais qui...
Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai eu la chance de démarrer chez Trois Gros, on en parlait tout à l'heure, et Bernard Loiseau n'était pas encore le chef qu'il est devenu par la suite, pas aussi médiatique. Et j'avais la chance de le croiser pratiquement tous les dimanches. Il venait, moi j'étais gamin, je démarrais dans le métier, et il venait là, et il avait cette sympathie, cette envie de partage. Cette pétillance. Et moi, j'étais admiratif de cet homme-là. Comme j'ai été admiratif de Bocuse, comme j'ai été admiratif de Pierre Troisgros. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance de faire cette maison. Et voilà. Et d'ailleurs, je suis toujours très proche de Marie-Pierre et Michel et des enfants de César et Léo aujourd'hui, qui est la sixième génération, je crois.
Allez, on a bientôt en enquille, tu vois, là, voilà. C'est comme le bateau qui est parti. Voilà, on enquille la dernière rame, dernier coup de rame de ce podcast. J'ai un petit questionnaire que je soumets toujours à mes invités qui s'appelle « Tu es plutôt ». Alors, tu es plutôt ça ou ça ? La règle du jeu, c'est ne pas réfléchir, répondre vite.
D'accord.
Ok ?
Allez.
Allez, c'est parti. Tu es plutôt café ou thé ?
Café.
Sucré ou salé ?
Salé.
Matin ou soir ?
Matin.
Bonjour ou au revoir ?
Au revoir.
Famille ou ami ?
Les deux, on a besoin des deux. C'est difficile, mais là, je vais répondre les deux.
Les deux, s'il te plaît ou merci ?
Merci.
Mental ou cœur ?
Cœur.
Mélancolie ou bonheur ?
Bonheur.
Ciné ou canapé ?
Canapé de temps en temps.
Canapé. Restaurant ou pique-nique ?
Resto, j'adore. Okay.
Amour ou amitié ? Celle-ci, elle peut piquer un peu.
Amour.
Amour. Ombre ou lumière ?
Lumière.
Et la dernière, cadenas ou clé ?
Cadenas ou ?
Ou clé. Cadenas ou clé ?
Clé t'ouvre tout.
Bon, tu vois, tu m'aurais dit cadenas, je me serais débrouillé. Hein. Je rentre une pirouette. Voilà, ça fait plus d'une heure, presque une heure et un quart qu'on est tous les deux. On se dirige vers la fin de ce podcast. Et bien entendu, je vais te poser cette question pour laquelle je suis venu à ta rencontre. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté de jouer le jeu et de t'être livré comme tu l'as fait. Fabrice, quelles sont les trois clés de vie que tu aurais envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant ?
Tout d'abord, la première clé, ben, c'est évident, c'est la clé de la solidarité. L'entraide, regarde ce qui se passe autour de toi. Donc cette clé, elle est importante. La clé aussi de la transmission de mon métier. Pour moi, c'est tellement important de transmettre. C'est un métier, j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde, par les rencontres, par le travail, le plaisir au quotidien. Donc j'ai vraiment envie de partager, et je le fais d'ailleurs dès que je peux sensibiliser la jeunesse à ce niveau-là, je le fais, comme la solidarité d'ailleurs aussi, c'est pareil. Et la troisième clé,
eh oui.
Qu'est-ce que ça peut être la troisième clé
Spontanément, comme ça. Qu'est-ce qui deviendrait? Qu'est-ce qui te semble, toi, important? On a parlé de solidarité, on a parlé de partage, c'est ça? Qu'est-ce qu'aujourd'hui...
L'amour. L'amour des peuples, l'amour de tout le monde, qu'on arrête de se déchirer, qu'on arrête de ces guerres, on arrête... aujourd'hui, c'est... on est fait pour vivre ensemble, on est fait pour s'accepter et il faut, il y a des solutions à tout, il y a pas de voilà.
Qu'on arrête de cuisiner l'autre, mais qu'on cuisine ensemble.
Ouais, qu'on cuisine ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on arrête de cette guérilla qui apporte rien et qui fait des massacres et qui détruit. Et tout le monde a le droit d'exister, tout le monde a le droit de vivre à sa façon. Et je pense que la cuisine, on le voit bien d'ailleurs, la cuisine, elle rassemble. Non seulement elle rassemble par la fabrication, mais la richesse des cultures de chacun, c'est juste incroyable. Je parlais tout à l'heure du Japon, par exemple.
Alors les trois clés, donc solidarité, partage et amour.
Et amour.
Allez, deux dernières petites choses. Des coups de cœur, trois coups de cœur, justement des trois coups de cœur. Ton coup de cœur cinéma ou film. Alors ça peut être quelque chose que tu as découvert il y a peu ou même quelque chose qui t'a marqué. Un film ou une série qui fait partie pour toi de vraiment un coup de cœur, un truc qui t'a chaviré, basculé, fait basculer ou qui t'a surpris, ému.
Oh là là, là tu me prends, me prends de court. Oui, il y en a forcément. Il y en a, il y a des.
Le premier qui te vient comme ça en fait. Toujours la spontanéité.
Ouais, la spontanéité. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a. Il y en a plein.
Qui t'a marqué? Ça peut être il y a longtemps, hein, mais quelque chose où tu t'es dit waouh, là.
Bah moi, il y avait un film quand j'étais enfant que j'aimais beaucoup, c'était Jacques le Croquant. Voilà, c'était un film qui m'avait marqué parce que j'étais gamin et puis de voir qu'il y avait cette misère aussi. C'était une époque. Alors, depuis, il y a plein d'autres films qui m'ont marqué ou des séries qui m'ont marqué. Mais
Jacques le Croquant, il y a eu des nouvelles versions qui ont été faites.
Hein, oui, c'est sûr. Non, mais je préfère la version originale.
Allez, ton coup de cœur, musique. Est-ce qu'il y a.
Aujourd'hui?
Quand tu veux. Aujourd'hui, avant, quelque chose qui t'a. Alors, je sais qu'avec Soupe en scène, tu croises beaucoup d'artistes.
Bah, pratiquement tous les artistes d'avant, d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai la chance de connaître tous les artistes des années 80. Non seulement je les connais parce que je les fais venir, mais en plus, pour la plupart, ce sont des amis. Que ce soit Désiré Lès, Julie Pietri. Moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup des années 80, qui est Jeanne Masse. Je suis allé la voir au Casino de Paris la semaine dernière. Et comme par hasard, je me retrouve avec Julie Pietri. Donc on a fait le concert ensemble, c'est juste incroyable. Et voilà, et Julie, elle est venue à plusieurs reprises. Elle est venue à l'hôtel de ville de Lyon, je l'ai fait venir à l'hôtel de ville pendant le Covid. Elle est venue deux, trois fois à Soupe en scène. Voilà, les années 80, années 90 aussi. Et une artiste aujourd'hui, révélation, une artiste que j'admire et qui pour moi va être une très grande dans les années à venir, c'est Santa. Santa, Popcorn Salé, qui est venue cette année à Soupe en scène.
Qu'on a vu d'ailleurs aussi voler avec son piano.
Elle a une voix incroyable, d'une gentillesse extraordinaire, d'une simplicité, d'une bienveillance. C'est ce qui va faire sa force.
Beaucoup la comparent à Véronique Sanson.
Bien sûr, c'est la nouvelle Véronique Sanson. Bien sûr, j'aime beaucoup Véronique Sanson également. Et Santa, elle a juste une voix incroyable. Puis c'est cette simplicité, cette générosité, cette simplicité.
Spontanéité. Ouais. Allez, dernier coup de cœur, ton coup de cœur, livre. Alors, toi qui parlais de livre.
Ça, le livre, c'est la biographie de Joséphine Baker. Cette femme, elle m'a bouleversé quand j'ai su quand elle est rentrée au Panthéon il n'y a pas très longtemps. Pour moi, c'était une évidence. J'ai eu la chance de visiter son château. Je me suis retrouvé un jour, pendant une période de vacances, juste à côté. Et j'ai visité son château.
Donc, il se trouve dans le nord de la France, c'est ça, non ?
Il se trouve en Dordogne.
D'accord, oui, donc rien à voir.
Rien à voir. Et j'ai eu la chance de le visiter. Et je sais que dès que je suis rentré dans le château, il y a quelque chose qui s'est passé. Incroyable. Je ne connaissais pas cette personne. J'avais juste entendu parler. Et j'ai voulu en connaître davantage, connaître son histoire, connaître sa vie. Et je trouve que ce qu'a fait et ce qu'a mis en place cette personne, elle était juste incroyable. Incroyable. Et qu'elle rentre au Panthéon, pour moi, c'était une évidence. Et donc, j'ai lu sa biographie. Pour moi, c'est un livre qui m'a bouleversé. J'ai appris beaucoup de choses sur elle. Et voilà, une femme que j'aurais aimé connaître.
Allez, je mettrai les trois coups de cœur que tu viens de me donner. Je les mettrai aussi avec le podcast pour que celle ou celui qui écoute puisse aller découvrir justement ses coups de cœur. Et qui sait, peut-être que ça va créer des nouvelles passions.
Ouais.
Dernière chose, on arrive vraiment à la fin de ce podcast. Ça y est. Ça y est, c'est fini. Ouf. Le dernier exercice. Ouf, ah bon ?
Non.
Je suis désolé. Tu
non. Ah, c'est dur des fois. Quand même. C'est super. J'ai bien aimé cet échange.
Dernière question. Tout à l'heure, on a fait un superbe voyage dans la belle DeLorean qui clignotait de partout. C'est un petit malin quand même, hein, ce petit Fabrice. En fait, quand on est rentré, il s'est glissé dans la DeLorean. Donc, il est rentré avec nous, sans qu'on le sache. Alors maintenant, je te demande un peu d'imagination. Mmh. Mais je pense que t'en as énormément. La porte s'ouvre là. Et ce petit Fabrice, en fait, entre. Mmh. Là, il longe. Et tu vois le pouf qui est juste là, en fait. Il s'assied là. Mmh. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à ce petit Fabrice ?
Bah, je lui dis d'abord bonjour. Bonjour, gamin. Salut. T'as bien fait de venir. Tu peux être fier de ton parcours. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Sois prudent quand même, parce que la vie, des fois, elle n'est pas toujours ce que l'on croit ou ce que l'on veut te faire croire. Mais en tout cas, va au fond de tes idées, de tes envies, et fonce. Et voilà, tu verras que la vie, elle est belle, la vie, elle est à croquer, et il faut vraiment faire ce qu'on a là, ce qu'on a envie de faire.
Foncer tout droit ?
Ouais. Ben voilà. En étant prudent quand même. Mais,
bien sûr.
Mais bien sûr.
Comme dirait notre ami Martial, dans le respect des conventions de Genève.
Ouais.
Bon, ben voilà, écoute, tu vois, ça y est, on a fait ce voyage.
Ouais.
Dans ce podcast qui donc est Les Passeurs de Clés, on arrive à la fin de ce podcast. Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé.
Merci Cyril.
D'avoir osé.
Merci Nathalie.
Nathalie qui nous a suivis, qui nous a filmé pendant toute cette heure.
Oh là là.
Presque 1h20. On est à 1h20 d'entretien. Et puis, bah voilà, merci de t'être confié, d'avoir participé, d'être livré sur certaines choses. Et puis, bien entendu, toi qui nous écoutes, je te rappelle que ce podcast, bien entendu, si tu as aimé ce podcast, comme je le disais tout à l'heure, liker c'est bien, commenter c'est pas mal, mais partager c'est mieux. De tes clés, partage, c'est mieux. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi. Si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, bah, n'hésite pas à prendre contact avec moi par lespasseursdeclés@gmail.com, lespasseursdeclés@gmail.com. Envoie-moi un morceau si tu veux que je le diffuse et que je fasse découvrir un petit peu ce que tu fais. Et puis bah, voilà, bien entendu, on se retrouve très vite pour le 125e épisode des Passeurs de Clés, ce podcast des éveillés qui est né il y a 4 ans. Voilà, on est au mois de février, bah, il y a pile poil 4 ans. Encore merci Fabrice.
Merci
de
à
cette
toi,
vue,
c'était un très bon moment.
De ce lieu,
Sophitel, de nous avoir reçus.
Exactement, nous avoir
merci
reçus.
Merci à Vincent, aux équipes qui nous ont reçus. Et c'était vraiment. Je trouve que le lieu était bien choisi pour cette immersion ensemble.
Eh ben écoute, on a passé, en tout cas moi j'ai passé 1h20 magnifique, où j'ai, même si on se connaît un petit peu, on a discuté beaucoup, mais j'ai découvert encore des choses, et voilà, il y a des choses à gratter quand même, allez voir.
Il y aurait tellement encore à dire.
Voilà, donc ça sera peut-être l'occasion, peut-être maintenant justement, bah, autour d'un bon repas, voilà,
ouais, bien
une
sûr.
Bonne bouteille d'un bon repas,
d'échanger. Il se passe beaucoup de choses autour d'une table.
Comme tu le disais. C'est ça, c'est la convivialité.
C'est la vie.
Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que j'avais jamais fait le constat, la France, on est le seul pays où quand on est à table, on parle bouffe.
Ouais, c'est vrai, on n'en a jamais assez. Et moi j'ai le beau souvenir, je terminerai là-dessus,
mais
un client un jour qui quitte le restaurant, il va pour sortir, il se retourne, il me dit, vous savez à quoi je pense ? Je dis non. Il dit, je pense déjà au plat que je prendrai la prochaine fois que je vais revenir chez
c'est
vous.
C'est incroyable.
Personne sortait de table quand même, je trouve que c'était un bel exemple.
Voilà, on a envie de partager, puis c'est aussi l'envie aussi de partager avec toi, de revenir, d'être bien dans ce lieu. Merci pour ton accueil, merci pour ce lieu. Le Sofitel ici, à Lyon, on peut aussi venir hein, dans ce magnifique, j'ai vu qui est ouvert de 18h à 1h, c'est un bar, hein, on a vu sur Lyon. Ah,
le bar est
la
juste
nuit,
incroyable.
Magnifique, avec toutes ces lumières allumées, dans cette ville des lumières. Et puis, ben, voilà, comme je disais, on se retrouve pour le 125e épisode très bientôt. Mais comme j'ai pour habitude de dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire.
Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.